faire un petit point de ce qu'on a expliqué. On a expliqué jusqu'à présent le grand chidouche, la grande nouveauté du Baal Shem Tov, qui a expliqué que qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la parole de Dieu se trouve constamment dans le monde, Vatam Rayat Kulam. Le Baal Shem Tov a expliqué un grand chidouche, et qu'aujourd'hui c'est quelque chose de connu, mais en tout cas ça, quand il l'a dit, c'est un grand chidouche, une grande nouveauté. Il a expliqué que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a généré une énergie. Cette énergie est véhiculée par la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la parole? La parole, c'est des mots. Dans chaque mot, il y a des lettres. Donc les mots sont des combinaisons de lettres. D'accord? T'as dit le Chaïm, David, c'est bon?
Le Chaïm.
Allez, pour que ça démarre. C'est le starter, le carburant.
Oui. Il va manquer ça samedi.
Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué? Le Baal Shem Tov a dit que le monde, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a utilisé des mots. Les mots sont composés avec des lettres. Les lettres, dans chaque lettre, il y a une énergie. L'énergie qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de créer, d'utiliser à la création du monde, cette énergie est constante. Et pour compliquer encore plus les choses, c'est ce qu'on a expliqué. On a expliqué que si on prenait toutes les lettres et tous les mots qu'il y a dans la première paracha, le premier chapitre de la Torah, si on prenait ces mots-là et ces lettres et on essayait de faire des jeux de mots avec, donc on a dit gimatria, etc., valeur numérique, tout ce qu'on a expliqué, on arrive à la combinaison qui est capable de créer toute chose qu'il y a dans le monde. Et donc c'est quoi la force des tzadikim? La force des tzadikim, c'est qu'ils sont capables de comprendre quelle est la combinaison qui correspond à l'élément qu'ils ont devant eux. Donc quand on connaît la combinaison, on connaît le secret. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est ce que le Baal Shem Tov va expliquer. Le Baal Shem Tov a dit, le plus compliqué, c'est de savoir comment la chose a été créée. Une fois qu'on sait, qu'on arrive à remonter à la chaîne et qu'on sait comment la chose a été créée, puisqu'on le voit à sa source, donc on sait automatiquement qu'est-ce qui va devenir. Bon, on connaît en tout cas ses spécificités. Ça, c'est ce que le Baal Shem Tov a expliqué. Alors, de là, il expliquait, c'est là qu'on s'arrêtait sur ça la semaine dernière. On a dit, l'erreur que font les Kofrim. Les Kofrim, c'est les renégats. Ça, c'est le point sur lequel on s'arrêtait la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quelle erreur ils font les renégats? Ils font une erreur très simple. Ils disent que pourquoi on ne dirait pas qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et une fois qu'il a créé le monde, il le laisse tourner. Et qu'est-ce qu'ils amènent comme exemple les renégats? Ils disent, regarde, imagine-toi un artisan qui vient et qui va façonner une bouteille en verre. Il pose la bouteille. Cet artisan, il part, il meurt si tu veux. D'accord? Tu viens dans 10 ans, la bouteille est toujours là. Donc ça veut dire que la bouteille n'a pas besoin de l'artisan. Donc qu'est-ce qu'ils disent les Kofrim, les renégats? Ils disent, pourquoi on ne dirait pas la même chose pour le monde? Que Dieu a créé le monde, certes, le fait que Dieu a créé le monde, c'est un exploit extraordinaire en soi, mais une fois qu'il l'a créé, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas aller chercher des complications maintenant? C'est créé, c'est fini, il peut partir, le monde sera toujours là. Ça, expliquer l'Admor HaZaken, c'est une erreur. C'est une erreur, pas seulement parce que la Torah nous dit que c'est une erreur de conception à la base. Pourquoi? C'est une erreur de conception à la base, puisque Admor HaZaken dit le problème qu'on a ici, c'est qu'on est en train de comparer quelque chose qui est une création avec quelque chose qui est seulement une modification. J'explique. C'est quoi la bouteille? On a simplement pris du sable et on a façonné avec du sable une bouteille. Et même si on va appeler l'artisan qui l'a créé, on va l'appeler un créateur. Ça fait clash, tu vois, tu appelles un créateur. Mais il a rien créé. D'accord, il a façonné. Donc effectivement, quand on façonne quelque chose, l'objet n'a pas besoin de l'artisan, parce qu'il n'a jamais eu besoin de l'artisan. L'artisan a servi simplement à façonner l'objet. Mais quand on parle de la création du monde, Akadosh Baruch Hu n'a pas façonné le monde. Il a créé le monde. Et notre propre cerveau qui nous permet de comprendre les rouages est lui-même une création de Dieu. Donc comment tu essayes de comprendre comment Dieu est en utilisant ton propre cerveau et en utilisant des choses qui sont façonnées? Ça veut rien dire. C'est pas comparable. On peut pas comparer ce qui est incomparable. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la preuve qu'ils amènent n'est pas une bonne preuve. Donc, qu'est-ce que la Torah pense? La Torah te dit, je vais pas t'expliquer comment ça s'est passé. Parce que, par définition, le cerveau lui-même est une création de Dieu. Donc, il peut pas comprendre. C'est pas possible. S'il y avait Dieu, et il y avait les hommes, et que Dieu dit un jour, il appelle les hommes, il dit, regardez ce que je vais faire, voilà, je vais créer ça. On peut comprendre. Imagine, voilà, maintenant, nous on est existants, on est là, on existe, et il y a Dieu. Et Dieu lui dit, bon, maintenant, je vais vous montrer, je vais faire un miracle, je vais ouvrir la mer. Et là, on a vu quelque chose, puisque on était là, Dieu était là, et Dieu a ouvert la mer. Mais si tu me dis que c'est Dieu qui a carrément créé notre cerveau, il a créé notre manière de réfléchir, on peut pas comprendre comment il l'a fait. Encore moins quand on va comprendre comment nous on façonne quelque chose, parce que ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Donc de là, la Morazaken a dit, mais ça c'était la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus. Il a dit que c'est une erreur et que c'est incomparable. D'accord.
Excuse-moi, si on dit que l'homme a été façonné à l'image de Dieu.
Bonne question. L'homme a été façonné à l'image de Dieu,
donc,
c'est vrai.
On peut rentrer dans entre guillemets. Hein.
Oui.
On peut rentrer dans sa.
Très bonne question. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais ça a ses limites. Parce que l'homme n'est pas un Dieu.
Non.
Ah oui, donc ça a ses limites.
Bien sûr.
L'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est vrai. Mais l'homme ne peut pas forcément comprendre comment il a été créé.
Non.
Parce que lui-même est une création. Le cerveau lui-même est une création. Comme on explique à la Yeshiva, je me rappelle, il y avait un rabbin qui nous donnait toujours l'exemple suivant. Il nous disait, si je vous dis 1 plus 1 est égal à 2, pour vous c'est une vérité absolue. Pourquoi c'est une vérité absolue? Parce que Dieu nous a créé avec un cerveau qui dit que 1 plus 1, c'est logique que ça fasse 2. Alors imaginez-vous qu'il nous avait créé avec un cerveau qui nous dit que 1 plus 1 est égal à 3. Eh ben, on aurait pensé qu'un plus un est égal à 3, c'est tout. Ça veut dire que ce qui nous paraît logique, en soi, c'est déjà une création de Dieu.
Donc dès le départ,
le jeu est faussé.
Le jeu est faussé, dès son pipé.
Dès le départ, c'est pas bon. Bon. Alors maintenant, Admor HaZaken va poser une question, il va ouvrir une petite parenthèse qui va aller jusqu'à la fin du chapitre. Regardez la question. On est à la ligne qui commence V'af, chez Enlo Demutavu, pardon.
Non,
c'est bon. C'est bon, Yacob, t'as mangé assez sushi? Allez, tout à l'heure, tu vas venir.
Ouais,
allez, pose-la, pose-la.
Non, c'est péché. C'est péché de faire ça.
Que tu veux dire,
c'est dur. Je pose pas de questions, donc tranquille.
Ah, c'est une épreuve, ce que j'ai dit.
T'es tranquille, quand je pose pas de questions.
On peut faire les deux?
Je peux, bon,
allez, je voulais. Enfin, pour l'instant, je le sens pas, mais bon, pas grave. Ok. Alors maintenant, la Admor HaZaken va poser une question. Il dit, ah, bien qu'on sait... Il dit, j'ai un problème avec tout ce que tu m'as expliqué. Finalement, c'est quoi la conclusion? Dieu a créé le monde avec sa parole. C'est quoi la parole? On a expliqué, la parole c'est un mode d'expression. De la même manière que nous on utilise la parole pour s'exprimer, Dieu utilise sa parole pour... C'est un vecteur d'expression de Dieu pour générer de l'énergie. Ce qu'on a expliqué. C'est bon, David? Un vecteur d'expression de Dieu pour générer de l'énergie. D'accord. Mais il nous pose une question très simple, une question en vérité fondamentale. Il dit, mais ça me paraît très bizarre. Quand tu essayes d'expliquer des choses divines, en amenant des exemples de notre corps. Donc on va rejoindre un petit peu ce que... Simplement, Eric. Donc il pose la question, il dit, je comprends pas. Il dit, mais tu me donnes des exemples, tu me dis, Dieu a créé le monde, c'est la parole, et les cinq modes de parole, et on a expliqué qu'il y a 5 groupes de paroles, il y a ce qui vient de la gorge, etc. Et après, avec ça, tu m'expliques, tu développes. Mais tout ça, c'est des exemples du corps. Dieu n'a pas de forme de corps. Alors comment on peut se permettre de prendre la parole de, enfin de prendre, je veux dire, la création et la rentrer dans des détails qui correspondent à la création de l'homme. Alors ça c'est la réponse qu'il a donnée ici. C'est une petite parenthèse. Bien que Dieu n'a pas l'image d'un corps, on le dit dans le Higdal. D'accord, on dit que Dieu n'a pas l'image du corps et il n'est pas un corps. Donc s'il n'est pas l'image d'un corps, c'est-à-dire qu'il ne ressemble, ça veut dire quoi l'image d'un corps? C'est-à-dire qu'il ne ressemble même pas à un corps. Donc s'il ne ressemble pas à un corps, comment on peut se permettre, nous, d'essayer de comprendre les chemins de Dieu en disant, oui, la parole, il a parlé, et les combinaisons, et ALF, et bête, et guillemets. Mais Dieu n'a pas de corps, il ressemble pas à un corps. La parole, c'est un corps, c'est une création matérielle. Ray répond à la réponse, écoutez ce qu'il dit. Mikra malé diberakatouf. C'est très simple, la réponse est très simple. On se base sur Rashi. Chaque fois dans la Torah, on nous dit « Vaidaber Hashem ». Dieu a parlé. « Vayomer Hashem ». Dieu a dit. Ça veut dire que Dieu a parlé, Dieu a dit. Dieu ne peut pas parler, Dieu ne peut pas dire, c'est plus fort que ça. Alors le pasouk le plus classique, le plus connu de la Torah, c'est « Vaidaber Hashem à Moshe, il est mort ». Dieu parla à Moshe en disant. C'est-à-dire que Dieu, il a parlé.
Il faut bien qu'on mette des mots sur quelque chose pour que ça devienne un être.
Non, pas du tout. Excuse-moi. Ça m'aurait paru beaucoup plus opportun de dire Dieu s'est exprimé à Moshe ou Dieu s'est révélé à Moshe. C'est vrai, il a parlé. Pourquoi tu emploies le terme parole? C'est faux. Dieu ne parle pas.
Pour que sa création comprenne.
Oui, d'accord. Mais Dieu ne parle pas.
Non, mais il peut, à partir du moment où il s'adresse à sa création, il va faire en sorte que le message...
Oui, j'ai compris. Mais Dieu ne parle pas. C'est les hommes qui perçoivent ça comme une parole.
Oui.
Dieu ne parle pas. Donc au lieu de dire par exemple Dieu a parlé à Moshe, on aurait dû dire Dieu s'est révélé à Moshe.
Il a fait les deux.
D'accord ? Oui, mais c'est pas la même chose. Dieu s'est révélé, c'est-à-dire Dieu a donné un message à Moshe, mais pas à parler, prends le mot parler. Dibour, Vaïdaber, parler. Pourquoi parler ? Alors, écoutez la réponse qu'il dit ici. C'est une réponse qui est basée sur Rashi, selon le commentaire du Harizal. Il dit comme ça. Veu prinat idgalut ravet otiyot elyonot la nevi'im umitlapshot besichlam vasagatam emar'e anevuah. Une réponse extraordinaire qu'il dit. Il dit en vérité, tu as raison. En vérité, quand on parle des 22 lettres de l'alphabet, en vérité, nous, chez nous, ces 22 lettres forment un alphabet, forment des mots. D'accord ? Par exemple, voilà, on va Even, une pierre, c'est Aleph, Bet, Nun. En vérité, spirituellement, quand on dit que Akadosh Baruch Hu a créé le monde et que les lettres sont un vecteur d'énergie, en vérité, pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Directement, il envoie l'énergie. Seulement quoi ? Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les hommes, donc notamment quand on parle de Dieu qui s'adresse à un prophète, l'homme va percevoir cette énergie sous forme de mots. Pourquoi ? Pour permettre à l'homme de structurer le message qu'il a reçu de Dieu. Mais en vérité, Dieu ne dit pas de mots. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vérité, Dieu donne un message. Sans mots. C'est directement de l'énergie. Seulement, l'énergie, c'est les mots. Aleph, Bet, Gimel, c'est des énergies qui passent. Seulement, Akadosh Baruch Hu a créé un système que cette énergie-là peut également s'exprimer en mots. C'est très particulier ce qu'il explique. C'est comme, je sais pas, si on pourrait donner un exemple. Vous avez des formules mathématiques pour écrire, ou physiques pour écrire l'énergie. Imaginez-vous que ces formules mathématiques peuvent former des mots. Normalement, c'est pas la même chose. C'est soit c'est une formule et tu es en train de m'exprimer une énergie, soit c'est un mot dans lequel tu composes un mot que tu veux dire. C'est pas la même chose. Soit tu es en train de me montrer de l'énergie, donc tu m'exprimes de l'énergie, soit tu me dis un mot. La force que Kadosh Baruch Hu a fait, et ça c'est le Chidouche, c'est qu'il a créé de l'énergie, et cette énergie prend forme également dans des mots. Ça veut dire quoi en clair ? Ça veut dire qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu n'a jamais parlé. Et qu'en vérité, quand on dit à Sarah Mamarot, les dix paroles avec lesquelles Kadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est pas de la parole, c'est de l'énergie. Seulement, Akadosh Baruch Hu a fait cette énergie en sorte de manière à ce que les hommes, lorsqu'ils perçoivent cette énergie, ils vont réussir à former des mots. Ça veut dire quoi, des mots ? C'est-à-dire qu'on va être capable de structurer cette énergie.
Donc c'est pour notre
compréhension. C'est pour notre compréhension. Ça veut dire qu'en vérité, cette énergie n'a pas de mots. Mais Akadosh Baruch Hu a donné à cette énergie une image de mots. Pourquoi ? Pour aider les hommes à structurer cette énergie. Parce que sinon, si on a une masse d'énergie qui arrive et qu'on ne sait pas la structurer, on ne sait pas la comprendre, ça sert à rien. Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi les otiotes ? Les otiotes, les lettres, c'est ce qui nous permet de canaliser et de comprendre l'énergie. Par exemple, une pierre, comment elle a été créée ? Par la combinaison de l'énergie de Aleph Bet Nun. En vérité, c'était pas un mot. Ça n'a jamais été un mot. C'était une combinaison d'énergie. Seulement pour que les hommes puissent comprendre et puissent structurer ce qui se passe dans le monde, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que cette énergie va pouvoir former des mots.
Ça veut dire quoi ? Finalement, plus comprendre.
Alors, le message qu'on va expliquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne se suffit pas simplement de créer les choses. Il veut que ceux qui ont été créés ont une certaine compréhension de la structure. Tu comprends ? Par exemple, imagine-toi que je te demande, David, de me construire une voiture. Je lui construis moi une voiture. Bon, le but, c'est quoi ? C'est que tu vas me construire la voiture, moi je conduis avec et c'est tout. Alors, ce qui se passe dans le moteur, j'en ai rien à faire. Peu importe, je n'ai rien à faire ce qui se passe dans mon temps. Moi, ce qui compte, c'est que j'allume, je démarre, j'avance et ça marche, et c'est tout.
Raison d'être.
D'accord ? Akadosh Baruch Hu dit non. Akadosh Baruch Hu dit non. Il dit, je ne me suffis pas seulement d'envoyer de l'énergie, de créer. Cette énergie-là, je vais lui donner la forme dans des mots. Comme ça, le jour où tu veux, tu ouvres le livre et il y a des mots, tu vas réussir à comprendre à quoi correspond l'énergie. Encore une fois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière les mots en hébreu se cache, il y a une énergie qui se cache derrière tout ça.
Non, autre question.
Oui.
Tu as pris l'exemple de la pierre, Even.
Oui.
Tu as d'autres mots qui sont composés d'exactement les mêmes lettres, dans un ordre différent.
Bien sûr.
Donc l'ordre a une incidence
importante. Bien sûr.
Important.
C'est comme dans l'énergie.
Mais le SMS.
Selon l'ordre que tu vas amener quelque chose, ça change tout.
D'accord. Mais je dirais de façon élémentaire, c'est les mêmes éléments.
Les mêmes éléments, mais selon l'ordre dans lequel on va les amener, ça va tout changer. Ah si, c'est un principe de base de physique, ça. Selon l'ordre dans lequel on amène des choses, on peut avoir des résultats complètement contradictoires. Pourquoi ? Parce que justement, ce qu'elle explique ici. C'est-à-dire qu'en vérité, à la base, il n'y a jamais eu de mots. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que cette énergie peut être comprise dans des mots, puisqu'il veut que les mots, c'est un vecteur de communication entre Kadosh Baruch Hu et les hommes. Et Dieu, Kadosh Baruch Hu, il veut que les hommes puissent comprendre ce qui se passe.
Alors les chiffres alors.
Quoi?
Les chiffres.
Les chiffres. Il n'y a pas de chiffres dans la Torah.
Si, la valeur numérique des.
Ah oui, c'est la valeur numérique, c'est pas la même chose.
Ouais, c'est quoi,
il n'y a pas de chiffres.
C'est quoi par rapport à l'énergie?
C'est la même chose.
C'est un autre encodage. C'est un autre...
On a dit que dans Sefer Yetzirah, c'est écrit qu'il y a 200. Comment on avait dit 204 types d'encodage différents. Alors tu peux y aller.
Par exemple, Aleph,
c'est et qui peuvent être combinés, hein. Qui peuvent être combinés Aleph, jusqu'à 204.
Aleph, c'est quoi, c'est l'encodage?
Ça fait un alphabet.
Aleph?
C'est quoi? C'est l'encodage?
Oui. Le fait que Aleph est égal à 1, c'est Akadosh, ça c'est ce qu'on appelle, c'est une énergie qui était transformée en mots. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ça? Pour que les hommes puissent comprendre. Parce que c'est quoi le problème? On va parler de la problématique qui parle ici. Dieu veut parler à un prophète. Il a envie de lui donner un message. Donc dans un message, il y a de l'énergie. Il a envie de lui transmettre un message, il y a une énergie derrière ce message. Le problème, c'est que s'il montre une image au prophète, et que le prophète a du mal à conceptualiser l'image qu'il a reçue dans des mots, l'image ne sert à rien.
Et vice versa.
D'accord? Et oui, et vice versa. Si le prophète, il parle à Dieu, mais qu'il n'arrive pas à conceptualiser son message, ça sert à rien. Donc c'est quoi le but des mots? Le but des mots, c'est de conceptualiser de l'énergie. De manière à ce que ce soit structuré. Et qu'on peut parler, je peux comprendre, je peux dire, il y a telle lettre, il y a telle lettre, il y a tel mot avant, tel mot après. Donc c'est très important, les mots.
Compris.
C'est pour ça que, juste deux secondes, c'est pour ça qu'il y a une très grande importance aux mots qu'on dit dans la Tfila.
Voilà.
Et aux mots qu'on dit dans la Torah. Dans la Torah, dès que le Chazan il manque un mot, une lettre, tac, on reprend. Pourquoi on le reprend? C'est pas seulement pour lui dire, je t'ai attrapé.
Non, c'est pas ça.
C'est parce qu'il
y a de l'énergie derrière et que si on change la formule.
Mais oui, c'est une formule.
Est-ce que c'est normal qu'on véhicule finalement toute cette énergie sans finalement comprendre vraiment.
Faut ouvrir les yeux pour comprendre.
Donc tu veux dire que les lettres c'est une interface.
Faut ouvrir les yeux.
Que les lettres c'est une interface.
Bien sûr. Une interface, exactement.
C'est du mort.
100%.
C'est comme Windows, quand il n'y a pas Windows, il y avait Windows.
Mais la force de l'interface, c'est que c'est une interface qui contient l'énergie. Normalement, une interface, normalement tu as l'énergie, et tu as une interface qui te permet d'accéder à l'énergie.
Voilà. Une couche.
D'accord? Donc c'est un... Voilà, c'est comme quand tu as un ordinateur, et tu as Windows, c'est l'interface qui te permet d'accéder au rouage à l'intérieur. Là, le problème, c'est que l'énergie est une lettre.
Il a dit, il faut ouvrir les yeux pour comprendre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
On va expliquer. Non, c'est bon. Il faut dire les chayim d'abord.
C'est pour qu'il est clair.
Il faut dire les chayim.
Non, parce que c'est vrai, des fois, on essaie d'ouvrir les yeux.
Il est en train d'avoir une énergie dans ses yeux, là. On voit.
On dit que... Ouais, on va expliquer. Qu'est-ce que c'est pour toi, les 10 commandements, David?
Les 10 commandements, c'est le don de la Torah. C'est tout... C'est finalement, c'est toutes nos mitzvot réduites en 10 paroles.
Ouais, mais bon.
La création du monde.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans 10 commandements?
C'est pas les 10 paroles, hein.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Finalement, si on n'a pas les 10 commandements, c'est pas...
Après, excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans les 10 commandements? D'après toi, les juifs, ils ont compris les 10 commandements quand ils les ont entendus de Dieu?
Non.
Déjà qu'ils ont entendu de pas Dieu, tout de suite.
Si tu les lis au sens...
Alors, quoi, quelle est l'importance des 10 commandements?
Tu les lis au sens simple, tu comprends?
Pourquoi c'est tellement important, Shavuot? On a dit ce matin dans Yom Yom que Shavuot, c'est un moment qui est aussi propice que Rosh Hashanah Yom Kippour, mais sans les inconvénients de Rosh Hashanah Yom Kippour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'accusateur, il n'y a pas le Satan. Oui,
il n'y a pas de jeu.
C'est Rosh Hashanah. Alors attends. Non, mais écoute ce que je vais te dire. Non, on ne va pas s'écarter. Ça veut dire quoi quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a donné les Aseret à 10 Berot? Alors en français, il traduit les 10 commandements. Mais en vérité, traduction littérale, c'est les 10 paroles. Pourtant, ces 10 paroles, les Bnei Israël, est-ce qu'ils les ont compris? Non, ils ne les ont pas compris, c'est sûr que non. Il y a un avis, la majorité des avis pensent qu'ils ont entendu que les deux premières. Et les autres, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas réussi à entendre. Il y en a même qui pensent qu'ils ont entendu que le premier mot du premier commandement.
Alors, quand tu dis ils n'ont pas pu les entendre, ça veut dire qu'ils n'étaient pas capables de les entendre.
Qu'est-ce que Dieu a dit? Moi, je veux comprendre. Disons qu'ils ont entendu les deux premiers. Qu'est-ce qu'ils ont entendu de la bouche de Dieu?
De l'énergie.
Non, mais ils ont entendu quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Essayez de me mettre en scène. On arrive, voilà, il y a le Mont Sinaï ici, on nous prépare, 6h du matin. Le tonnerre, les éclairs, pas de pluie d'ailleurs, hein, c'est intéressant, hier soir il y avait le tonnerre, les éclairs, il y a la pluie.
Justement, quand
tonnerre, éclair, pas de pluie.
Quand on entend les tonnerres.
D'accord? Et tout d'un coup on entend la parole de Dieu, la voix de Dieu. Donc il y a une voix. Bon, et qu'est-ce qu'ils entendent? Premier commandement, c'est quoi le premier commandement? Je suis Hachem ton Dieu. Donc qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu des mots. Quels mots on a entendu? On a entendu une voix qui sortait du ciel, une voix céleste, qui disait « Je suis Hachem ton Dieu, Anori, Hachem, Elokecha », avec les mêmes syllabes que ce que je suis en train de vous dire.
Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que Dieu parlait en sous forme d'énergie.
Alors justement, c'est ça ma question. Que je pose à David. Je dis, mais finalement, ces gens-là, ils n'ont rien... C'est rien.
Ils n'ont rien compris.
Quelle est la différence entre eux, les Bnei Israël qui entendent ça de la bouche de Dieu, si on peut dire, et Moshe Rabbeinu qui le répète après. Imagine-toi que je me suis endormi, j'ai pas écouté les 10 commandements. Et qu'après, Moshe Rabbeinu qui me dit, tu sais, Dieu a dit, je suis Hachem ton Dieu. Ah, bravo, bon, ça va. Trois mots. Anokhi Hachem Elokecha, Asher Otitira Meret Mitzrayim. Je suis Hachem ton Dieu qui t'avait sorti d'Égypte. Le mot a rien de spécial en soi. Quelle est la force des 10 commandements? Quelle est la force de Shavuot? La force de Shavuot, c'est que derrière ces mots, il y avait une énergie extraordinaire. Comme la Gemara Shabbat, elle explique, elle dit que derrière le premier mot de Anori, premier mot des 10 commandements, dans ce mot, il y a une énergie, il y a une énergie qui correspond à toute la Torah. Ça veut dire que c'est pas le mot qu'on cherche ici. Le mot, c'est une interface. Ce qu'on cherche, c'est l'énergie qu'il y a dans le mot. Tu comprends ce que je veux dire? Et que nous, la force du Ham Israël, c'est que nous, on doit essayer de chercher l'énergie qui se cache derrière le mot. Pas le mot. C'est pour ça que c'est très important, c'est très important de s'efforcer de lire dans les mots. La tefila dans les mots, l'étude de la Torah dans les mots, tout ce qu'on peut regarder au moins dans les mots, il faut le faire. Parce que les mots, c'est très important. Les mots véhiculent une énergie.
Bonne élocution.
Je n'ai pas compris ce que c'était les chiffres par rapport à l'énergie et par rapport au latin.
Les chiffres, encore une fois, les chiffres, c'était une des méthodes, une méthode d'encodage. C'est tout. C'est la guématrie, hein.
Oui, mais d'accord.
C'est un type.
En quoi ça, à quoi ça sert?
Ah, bah, ça sert. C'est à quoi, ça sert? C'est la gimatria, une des,
si tu me transmets
l'énergie. Une des 204 méthodes de calcul, c'est la gimatria. Donc gimatria, par exemple, even, c'est Aleph, Bet, Nun.
Oui.
53. Donc c'est le chiffre, c'est les chiffres.
On dit encore pire.
Mais c'est différent du latin, parce que dans le latin, tu as les lettres et tu as les chiffres.
Après il y a les milouïms.
Dans la Torah, il n'y a pas les lettres et les chiffres, c'est, les lettres sont les chiffres.
Après il y a les milouïms, tout ça, c'est parmi d'autres choses.
Oui. Encore une fois, c'est le...
On dit pire, qu'ils ont vu les voix.
Oui, exactement. Normalement, il y a ton livre, voilà. Pardon. On dit que les Bnei Israël, à Matan Torah, ils ont vu les voix. Ça veut dire quoi, voir une voix?
L'expression de l'énergie.
Non, c'est pas
vrai. Oui, mais ça veut dire quoi, voir une voix?
Ils ont vu la manifestation de Dieu à travers, notamment les éclairs, la foudre, les éléments naturels qui doivent se mettre en branle.
Oui, mais c'est de quoi voir une voix.
Ils ont vu les voix.
Ça veut dire
l'expression de l'énergie.
Ça veut dire, moi je veux comprendre en clair. Ça veut dire quoi? Ils ont vu quoi? Puisque bon, je voulais pas parler de ça, mais vous avez posé la question. Ils ont vu quoi? Essayez d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire voir une voix. Ils ont vu les lettres. Alors ils ont pas vu les voix, ils ont vu les lettres.
Non, ils ont vu les paroles.
Ah, il y a eu un écran. Un écran, on a vu Anori. Allez, ils ont vu quoi?
On dit qu'on a vu, c'est-à-dire qu'on a compris. Ils
ont vu la... Ah, David dit voir, c'est-à-dire comprendre. C'est pas écrit ça?
Non. Oui, mais c'est qui prend la lettre du mot voir?
C'est vrai que... C'est-à-dire quoi, voir une voix? Non, mais... Le concept...
Non, mais c'est pas...
Voir, ça veut dire...
Voir une voix, c'est pas...
Je vais expliquer.
Parce qu'en principe, une voix, tu la vois pas, tu l'entends.
Non, mais quand tu...
Mais ça veut dire quoi, voir une voix?
Ça veut dire qu'ils ont vu ce qu'on ne voit pas.
Non. Ça veut dire quoi, voir une voix? Je veux comprendre.
Alors, attends, c'est pas le bon sens.
Une expérience avec les oscillogrammes.
Oui.
Que quand tu dis Aleph, ça fait...
J'ai compris. Alors, toi, tu veux me dire que quand on dit qu'ils ont vu les voix, ça veut dire qu'ils ont vu des Aleph dans l'air?
Pourquoi pas? Ils ont vu une énergie qui représente un Aleph? Pourquoi pas?
C'est ça pour toi?
Mais on dit bien, nous, je vois ce que tu veux dire souvent.
Oui, mais c'est une idée, c'est une image.
Non,
c'est
pareil.
Alors, je vais vous expliquer comment on explique ça en chassidout. On explique ça en chassidout avec un... Parce qu'on a dit qu'on allait parler de Matan Torah. Bon, je ne vais pas parler de ça, mais vous me faites parler de ça.
Alors,
il y a une autre Gemara qui nous dit que... Il y a eu un miracle que Kadosh Baruch Hu a fait, que lorsqu'on a reçu la Torah, il n'y avait pas d'écho. C'est une grande voix pourtant, on nous dit que c'est une grande voix. Donc naturellement, vous êtes en plein milieu du désert, il y a une grande voix, c'est un endroit qui est vide. C'est quoi la logique?
Il n'y a pas d'écho.
Non, normalement, il doit avoir un écho.
Bonne
question, d'accord.
Logiquement, non.
Qu'est-ce que nous dit la Torah? La Torah nous dit que c'est un miracle qui s'est passé, l'endroit où ils étaient, qu'il y avait des endroits sur lesquels la voix, normalement, devait ricocher. Et pourtant, il n'y a pas eu d'écho. Alors, en chassidut, on pose la question, on dit, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ce miracle? En quoi ça nous aurait dérangé à l'expérience de Matan Torah s'il y avait un écho?
C'est compréhensible. Ça voudrait dire qu'il y aurait... Entre guillemets, il y aurait deux dieux.
Alors, mais non. Ouais. Un écho, c'est un écho. Qu'est-ce qu'il y a? C'est naturel.
Moi, j'entends une voix et cette voix se répète.
Mais Dieu ne fait pas un miracle pour rien. Pourquoi il a fait ce miracle?
Non, mais c'est... Enfin, s'il y a réflexion de l'énergie.
Voilà. Alors, comment on explique en chassidout? Écoutez bien. Vous allez voir que cette réponse va répondre à la première question. La réponse est très simple. C'est que c'est quoi l'écho? L'écho, c'est quand il y a une réflexion de la voix. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle se bloque contre quelque chose et elle revient. La force de Matan Torah, c'était même pas un miracle. La force de Matan Torah, hein, c'est qu'il n'y a aucun élément dans le monde
qui était capable de
bloquer l'énergie divine.
Que même les montagnes...
C'est tellement fort que rien ne pouvait retenir, donc il n'y a pas d'écho. Et même si tu vas mettre le plus grand mur que tu veux, ça transperce. C'est une énergie divine qui était tellement forte.
Quand on entend le tonnerre qui
avec ça,
on comprend finalement.
Avec ça, bon c'est vrai. C'est...
Ça transperce.
On est dans nos maisons, tranquilles, et...
Oui, mais
tu sais que quoi qu'il arrive, tes maisons ne vont pas bouger. Donc avec ça, on va répondre également à la première question. Première question, on a dit, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Chol Ha'am Ro'im Et Hakolot, que tout le peuple voyait les voix. C'est-à-dire quoi voir une voix? C'est quoi la différence entre voir et entendre? Quand j'entends quelque chose, je ne suis pas sûr à 100%. La preuve, c'est que j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu les tonnerres hier soir. J'étais dans mon lit, j'ai entendu les tonnerres. Bon. Après, quelqu'un va me dire, écoute, tu sais, tu crois que t'as entendu le tonnerre, mais c'était pas le tonnerre, c'est un pétard. Je sais pas.
C'est pas t'attendu.
Si j'avais les yeux fermés, d'accord. C'est pas la grêle. C'est pas la grêle, c'est quelqu'un qui a jeté de l'eau. C'est possible ou c'est pas possible?
C'est possible. On peut tout imiter.
On peut tout imiter. D'accord.
C'est valable aussi pour
la. Ah non, attendez. Quand une personne entend quelque chose, c'est très facile de lui donner une illusion. Alors que lorsqu'une personne, soit de lui donner une illusion, ou soit de lui expliquer que ce qu'il a entendu n'était pas ce qu'il pensait entendre. Lorsqu'une personne voit quelque chose, c'est beaucoup plus difficile. Il l'a vu. Je sais, quand j'étais... Je crois que j'ai donné une fois cet exemple au Kolotania. Quand elle était à l'Yeshiva, le Rav nous a donné une fois l'exemple suivant. Et imaginez-vous que je vous dis... C'était comme ça, c'était à Brunois. Imaginez-vous que je vous dis... On a entendu le bruit d'une fusée qui a décollé à Brunois. À Brunois. On a entendu le bruit d'une fusée, etc. Tu vas croire. Après, quelqu'un va dire, écoute, tu sais, en vérité, c'était pas un... Ce que t'as entendu, c'était pas une fusée. C'est quelqu'un qui est venu avec une sono, qui a fait le bruit d'une fusée, et c'est entendu une fusée. Bon, je le crois comme je le crois pas, c'est rien du tout. Maintenant, si de mes yeux, je suis venu, on m'a dit il y a une fusée qui va décoller, je suis arrivé dans la place de Brunois, et j'ai vu une fusée qui a décollé. Avant de me faire croire le contraire, tu vas devoir t'accrocher, parce que j'ai vu. Quand une personne voit quelque chose, c'est très compliqué de lui dire ce que tu as vu, c'était faux. C'est pour ça que quand il y a des illusionnistes, je sais, vous allez parler des illusionnistes. D'accord? Quand il y a des illusionnistes qui vont te faire croire certaines choses, les gens ont beaucoup de mal après à s'expliquer qu'en vérité c'était faux. Parce qu'ils ont vu.
C'est une illusion.
Parce que, alpi alakha, selon la alakha, quand on voit quelque chose, c'est considéré comme si que la chose est devenue réelle chez nous. C'est pour ça qu'un témoignage, par exemple, on peut témoigner seulement si on a vu quelque chose. Tant que la personne n'a pas vu, tu peux le faire croire ce que tu veux. Avec ça, on va expliquer. C'est quoi la difficulté? Ça veut dire quoi, Roim et Hakolot? Normalement, une voix, ça s'entend seulement. Ça s'entend, ça veut dire que j'entends, mais je ne suis pas sûr à 100%. Là, quand on dit que les Bnei Israël ont vu les voix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils avaient une telle émouna, ils étaient tellement persuadés que c'est comme si qu'ils avaient vu la chose.
Et puis le Kliyaka a dit qu'ils ont vu les lettres se dessiner aussi, quand même.
Il dit ça.
Moi, j'ai
utilisé
ça.
J'ai pas vu ça, Gregor. J'ai vu Gregor.
Bah, je sais pas.
Bon, peut-être, je verrai après.
J'ai pas vu dedans, mais j'ai lu un commentaire qui rapporte.
Non, peut-être un top.
Non, j'ai lu un commentaire qui rapporte.
Il y a beaucoup de.
Donc, toi, c'est plus. C'est
plus spirituel.
Non, c'est-à-dire, toi, tu l'as vu vraiment dans les mots du commentaire. Moi, j'ai lu un commentaire qui rapporte. C'est pas pareil.
Peut-être. Qui m'a mis de la bourra dans mon coca? Donc je reviens à notre sujet. Alors on revient. Quelle question il a posée? C'est quoi la question qu'il a posée? La question qu'a posée l'Admora Zaken, c'était comment chaque fois qu'on parle des choses divines, on peut donner une image matérielle. C'est-à-dire, Dieu a parlé, Dieu a dit, les mots, les combinaisons, les lettres, mais c'est physique tout ça. C'est la question qu'on a posée au début du cours. Quelle est la clé de la réponse? La clé de la réponse, c'est qu'en vérité, il n'y a pas de mots. En vérité, il n'y a que de l'énergie. Sauf que Akadosh Baruch Hu, comme il veut que les hommes comprennent cette énergie, donc il va faire que cette énergie va prendre une forme de mots. Et c'est uniquement pour nous permettre de structurer la chose. Mais en vérité, tu as raison, en vérité, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est une illusion tout ça qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse structurer. En vérité, il n'y a pas de mots. Ça veut dire que, je reviens, Akadosh Baruch Hu, par exemple, a donné les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il a dit Anochi Hashem Elokecha. Est-ce que Dieu a dit Anochi Hashem Elokecha? Non. Dieu a véhiculé une énergie. Dans l'énergie du mot Anochi, par exemple, dans ce mot Anochi, il y avait une énergie énorme. Dans un autre mot Anochi de la Torah, il n'y a pas cette énergie. De là, c'est une preuve que quoi? Que c'est pas le mot qui fait l'énergie. Le mot, c'est l'interface, c'est tout.
On a quand même du mal à palper quand même cette explication.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot, c'est les lettres. Écoute bien. Écoute bien. Encore un petit peu de bouchard, David. C'est pour toi.
On a du mal à saisir le.
Dans la Torah, c'est écrit plusieurs fois le mot Anochi. Pourquoi le mot Anochi est important seulement dans les 10 commandements? Si le mot est important, il est important. Pourquoi il est important que là-bas? Parce qu'un mot, ça véhicule une énergie.
Pourquoi il est important que là-bas?
Alors pourquoi il véhicule une énergie différente?
C'est comme, je vais donner un exemple. Tu dis à quelqu'un, je t'aime. D'accord? Il y a une énergie dans tes mots.
Pourquoi avec les mêmes lettres, il y a deux énergies différentes?
Ça dépend quand tu l'as dit. Justement. Alors écoutez bien ce que je suis en train de dire. Non, écoutez bien. Et là, il va comprendre, je suis sûr qu'il va comprendre, là. Ça dépend quand tu l'as dit et à qui tu l'as dit. Parce qu'un mot, ça véhicule une énergie. Mais pourtant, c'est le même mot. Et pourtant, chez une personne, ça peut obtenir un bon effet. Chez une autre personne, tu peux obtenir l'effet contraire. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que c'est pas le mot qui fait la chose. Le mot, c'est une interface.
On a dit que non, tout à l'heure.
Non, justement, c'est pour m'expliquer. Le mot, c'est une interface qui cache une énergie. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, quand on dit qu'il a créé le monde, c'est une énergie. Seulement, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que cette énergie est structurée avec des lettres et des mots, pour qu'on puisse comprendre. Mais en vérité, c'est de l'énergie, tout ça. Donc, Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme de corps. C'est que de l'énergie, tout ça. C'est que de l'énergie, c'est que de la chayout, c'est que de la création. Il n'y a pas de forme de mots. C'est pas que Dieu est structuré qu'avec 22 lettres. Et qu'en haut, dans l'ordinateur de Dieu, il y a 22 lettres, et qu'avec son forme, non, il n'y a pas 22 lettres. C'est une structure que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse comprendre comment on a été créé. D'accord? On va expliquer dans les mots. On va dire dans les mots.
J'ai un début de.
Eh ben voilà. Arré. On va reprendre à Arré Mikramalé d'Iberakatou. Alors, on va prendre à. Ben, la première ligne à laquelle on a commencé. Arré Mikramalé d'Iberakatou. La Torah a dit explicitement. Vaïdaber Hachem, Vaïomer Hachem. Dieu a dit. Dieu a parlé. Vehi prinat it galut achav bet otiyot le nevi'im elyonat le nevi'im. C'est quoi quand on dit que Dieu a parlé? Dieu s'adresse à qui quand il parle? Il s'adresse au nevi'im, il s'adresse au prophète. Dieu envoie une énergie à un prophète. Seulement le problème qu'il a, c'est quoi? C'est que si le prophète il envoie une énergie sans interface,
il
peut rien comprendre. Comme c'est connu, on explique chez Chassidim, on dit que quand un Chassid il va chez son rabbi et qu'il voit une grande énergie mais qu'il n'arrive pas à traduire ça dans des mots, ben il repart comme il est venu. Quand vous allez voir un tzaddik, vous voyez une doucha énorme, mais vous avez du mal à la conceptualiser, à la traduire personnellement. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Vous repartez comme vous êtes venu. Pourquoi? Parce que c'est le même problème que Dieu a avec les anges, avec les Nevinim, pardon. Ouais. Il va leur envoyer une grande énergie, mais si tu ne prends pas cette énergie et tu ne la formes pas avec des mots avec, si tu ne l'as pas structurée, tu ne l'as pas retenue, tu ne l'as pas conceptualisée, tu repars comme tu étais venu. Tu vas sentir qu'il y avait quelque chose de grand, mais il n'y a rien. Alors, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des mots, il a fait des lettres. Puisqu'on parle des prophètes, pourquoi il a fait des mots et des lettres? C'est pour permettre aux prophètes de comprendre. Pour permettre aux prophètes de comprendre dans sa tête qu'est-ce que Dieu voulait lui dire. Pas seulement qu'ils se disent, ouais, Dieu voulait certainement me dire quelque chose d'important. Non, ils comprennent qu'est-ce qu'on voulait lui dire. Ça veut dire que l'important, c'est pas simplement de penser au fond de soi, c'est de dire le message. Comme quelqu'un dans sa tête, il pense, j'aime beaucoup mes enfants, j'aime beaucoup ma femme, mais il l'a pas dit. D'accord? Il dit, oui, mais j'ai l'énergie. Oui, mais tu l'as pas dit.
C'est un problème.
Peut-être que toi, t'as essayé de le faire comprendre, mais si tu ne l'as pas dit clairement dans des mots,
si
tu ne l'as pas dit dans des mots qui ont été perceptibles et qui ont été compris par l'autre personne, tu perds ton temps.
Mais l'énergie, c'est pas que dans des mots.
L'énergie, c'est partout, oui, bien sûr. Les mots...
C'est-à-dire que ça se...
Oui, mais... Tu as raison, mais les mots, c'est une structure. C'est ce qui me permet de structurer. Tout est structuré avec des mots. On écrit avec des mots, on réfléchit avec des mots, on parle avec des mots. C'est ce qui nous permet de structurer les choses. Tout, on a besoin des mots. C'est ce qui nous permet d'avoir une définition pour une chose, une autre définition pour autre chose. Les mots, c'est très très important.
Ouais, c'est une interface aussi.
Mais c'est une interface très importante.
Surtout dans la langue française, on est gâtés. On a vraiment des mots qui veulent vraiment dire...
Mais au-delà de la langue, tu prends par exemple des animaux, ouais. Ils ont des signes ou un langage qui
n'est pas... Ils ont un langage, mais ils ont un langage.
C'est tout. Nous, on a un langage
humain. On est obligé d'avoir un langage. Sans langage, tu peux pas communiquer.
Oui. Après, oui, parce qu'on est plus...
En langage de cétacé, par ultrasons, c'est aussi balèze. Hein.
Oh non.
Non, non.
Mais enfin, toutes les espèces animales communiquent.
Tu penses qu'il y a un Nietzsche ou un Marx, c'est assez toi.
Je pense pas, mais déjà pour comprendre dans le langage, on n'arrive pas.
Si, mais bon, c'est les sentiments.
C'est pas, on n'en sait rien.
Il y a pas une chance.
Il y a peut-être des... le problème, c'est qu'on ne connaît pas les nuances de leur parole.
On ne connaît pas la nuance de leur parole.
Il y a tant de choses, mais là,
c'est pas quoi, c'est Marx.
Non, j'ai pas entendu ce que tu as dit au début, mais ça, c'est de la pensée, c'est pas de la parole.
Oh, c'est pour te dire.
Après, tu sais, les nuances, ça change beaucoup. Ça change énormément.
Comme tu dis, c'est au niveau du
sentiment. C'est comme si je te dis, regarde, en français, je dis, ça m'intéresse, ou je dis, ça m'intéresse.
Oui.
La baleine, elle va entendre le même mot, mais pourtant, ça change tout. L'homme, il dit, mais un, il est intéressé, l'autre, il est pas intéressé.
Oui, d'accord, mais ça c'est pas...
C'est des nuances, on connaît pas les nuances des animaux. Peut-être que quand ils bougent un petit peu, ils font un petit clin d'œil, je sais pas, ils reniflent un peu à droite, un peu à gauche, je sais pas, moi, je connais pas leur signe.
Marc, c'est des magots, quoi.
On n'est pas dans leur tête. Okay. Hein, peut-être ils bougent un petit peu, je sais pas moi ce qu'ils peuvent faire. Eh bien, quand ils restent stationnés, il y a des têtes d'expression. C'est où on voit ça, les expressions, c'est quand je vois des fois des gens qui sont... on appelle ça des gens qui peuvent pas parler, comment ils communiquent. Extraordinaire, que j'arrive pas à comprendre comment ils se comprennent. Il bouge la main et des fois selon la manière comment il va bouger, c'est une combinaison de plusieurs choses.
Tu dis pour les animaux, mais je veux dire, c'est pas pour ça que ça parle des penseurs, quoi.
J'en sais rien, je suis pas dans la réflexion. J'en sais rien.
La pensée,
sans rentrer dans la réflexion.
On dit que le renard est le plus intelligent des animaux.
Je peux prendre un âne qui va.
En quoi s'exprime l'intelligence du renard?
Il est rusé.
Voilà. Rusé, c'est rusé.
Rusé, c'est une forme d'intelligence.
Rusé, c'est une grande forme d'intelligence.
Ah bah oui. Ah oui.
C'est-à-dire qu'il est capable de préparer le prochain coup.
Exactement.
Il anticipe.
Il anticipe pas surtout, il anticipe de ce qu'il peut anticiper. Comment attraper un poisson,
c'est énorme.
Il a une combinaison complexe par rapport à...
Anticiper sur la pollution et les choses comme ça.
Attends, tu sais que quand il y a des tsunamis, il n'y a aucun animal qui a été...
C'est un instinct.
Comment ils sentent? Ils sentent des vibrations. Ils ont senti des vibrations dans la Terre que nous, on ne ressent pas.
C'est pas l'intelligence, c'est un instinct. Excusez-moi, c'est tout simplement la sensibilité qu'ils ont.
Oui.
Quand tu dis un chien, il sent, je crois, 100 000 fois plus qu'un homme. D'accord. Donc c'est juste une échelle. La réalité, c'est qu'on sent, mais on n'a pas cette capacité ou cette sensibilité.
C'est pas développé.
C'est pas développé de la même manière. Quand il dit un animal, il sent les vibrations et donc il réagit pour se protéger. Nous, on n'est pas capable de ressentir.
C'est comme si j'ai envie de te parler, je tape du pied, tu sens ma vibration et tu comprends ce que je voulais dire. Imagine-toi.
Mais il aurait fallu que tu tapes fort.
Chacun a développé des facultés différentes.
Bon, allez. En tout cas, le gars, le marchaftam, le diboram, kmoche katouf, ruach hachem. Allez, messieurs, on va pas s'écarter du sujet. Kmoche katouf, ruach hachem, diberpi, ou milato, al-lechoni.
Si on dit développé, c'est pas bon, c'est-à-dire que si on croit des gens,
les diboram. Qu'est-ce qu'il dit le verset, messieurs? Qu'est-ce qu'il dit le verset? Le verset dans Yeshaya, dans Isaïe. Allez, messieurs, allez, on va faire la parenthèse. Qu'est-ce qu'il dit Yeshaya? Yeshaya, il dit, le prophète Isaïe, il dit que l'Esprit de Dieu a parlé en moi, et son mot est sur ma langue. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire?
Son mot est sur ma langue.
Traduction littérale. L'Esprit de Dieu a parlé en moi.
Parce que le prophète, d'accord, il réfléchit
et
pas.
Et son mot est sur ma langue. C'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. C'est qu'en vérité, il y a deux choses. Il y a d'abord l'Esprit de Dieu qui parle en lui. Ça veut dire quoi? C'est l'énergie.
C'est une révélation.
Et après, lui va traduire cette énergie dans des mots. Des mots qui vont venir dans sa langue.
Mais qu'il ne dirige pas.
Il ne dirige pas.
Mais il comprend qu'à la base, avant d'arriver à des mots, il y a une énergie.
Oui.
C'est pour ça que des fois, dans l'histoire, on a des prophètes, dans le Nar, on a des fois des prophètes qui disent ne pas comprendre le message que Dieu veut leur donner.
Mais c'est pas leur...
Pourquoi?
C'est
pourquoi ils ne le comprennent
rôle.
Pas? Oui, mais des fois, il y a des prophètes qui disent Dieu m'a parlé, mais j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'énergie, mais ils n'ont pas réussi à traduire ça dans des mots. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'un prophète se mettait dans un état second, c'est pour prophétiser, il se mettait en transe, il fallait pas le déranger. Parce que dès que tu l'arrêtes, c'est fini. C'est comme une personne qui compose une chanson. Rien de composé. Il est là en train de composer. Tu viens, tu l'arrêtes, c'est fini. Après, c'est trop tard. C'est la même chose avec les prophètes. Des fois, il y a des prophètes, c'est trop tard. On a raté. Après, peut-être que Dieu décidera de me renvoyer la parole. Peut-être,
c'est
vrai, peut-être
non. Tu n'as pas tort.
D'accord. Mais des fois, on te cherche. Bon, alors on revient. Moshe Katav, Arizal, c'est le Arizal qui dit ça. Béchar, Anevoa. Le Arizal, dans le Arizal, il a écrit un livre, et dans ce livre, il y a des portes. On en a parlé une fois.
Arizal, il a écrit.
Oui, Arizal, il a transmis à son élève. Et donc, une des portes, Char Anevoa, la porte de la prophétie. Et qu'est-ce qu'il explique dans la porte de la prophétie? Il dit ce qu'on vient d'expliquer. Qu'en vérité, Dieu ne donne pas des mots aux prophètes. Dieu donne de l'énergie, c'est les prophètes qui traduisent cette énergie en des mots. Alors, si on a compris ça, c'est exactement, il en est exactement de même quand on dit que des lettres ont créé des choses. Que Dieu a dit des lettres, Dieu a dit des mots, et que ces mots ont créé des choses à la création du monde. Kedirtiv, comme c'est écrit, Bidvar Hashem, Shamaim Nasu, Obuar Piv Kol Sevaam. Avec la parole de Dieu, les cieux ont été créés, et avec le souffle de sa bouche, toutes leurs armées ont été créées. On veut illustrer exactement ce qu'on vient d'expliquer. Qu'il y a la parole de Dieu et il y a le souffle de sa bouche. C'est quoi le souffle de la bouche? C'est l'énergie. Qu'en vérité, ce qui compte, c'est l'énergie qui se cache derrière les mots. Nous, on croit que waouh, Dieu a parlé, c'est ça ce qui a fait le ciel. Pas du tout, c'est une illusion, ça. Le fait que nous, on voit ça dans des mots, c'est une illusion. En vérité, qu'est-ce qui a créé? C'est l'énergie qui se cache derrière la création du monde. Rak seulement. Seulement, dans cette interface que Dieu doit créer, pour passer de la phase énergie à la phase matérielle, à la phase physique, on doit descendre plusieurs fois de niveau. Parce que à la base, le point de départ, c'était une énergie divine. Comment tu prends une énergie divine, et de ça, tu crées quelque chose de physique? Voilà, j'ai une table devant moi. Une table physique et matérielle. Comment tu prends de l'énergie, et de cette énergie, tu crées une table? Ça, c'est très simple. Ce qu'on appelle, dans la Kabbalah, le concept de Ishtalchelut. Ishtalchelut, c'est-à-dire enchaînement, transvasé. D'accord? L'enchaînement, tu transvases, et progresses. Chaque fois que tu transvases, tu perds un petit peu, jusqu'à la fin, l'énergie va commencer à prendre forme. Mais l'énergie, elle est à brut. Oui, bien sûr, dans le début. L'énergie, elle est à brut, tu peux rien faire avec. C'est obligé de la réduire, et c'est seulement quand tu as un petit peu d'énergie, qu'avec ça, on peut faire des choses extraordinaires. On le voit avec l'atome, ça. D'accord.
Énergie, matière.
La vitesse.
Qu'on est obligé, on est obligé de réduire ça à l'élément le plus fin possible, le plus petit possible, et c'est de ça qu'on peut faire des choses extraordinaires. Pourtant, cette énergie-là se trouvait dans le gros élément. On est obligé d'aller le plus fin possible. C'est ça. C'est Akadosh Baruch Hu utilisait exactement cette même méthode pour la création du monde. Il a pris une énergie, il a réduit, jusqu'à ce qu'à la fin, quand tu vois, toi, tu crois un mot, tu crois que le mot il est anodin. Bah, tu dis c'est basique. Even, une pierre. Alef, bet, nun, c'est rien. Tellement Akadosh Baruch Hu est descendu. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le tzaddik va remonter de l'autre côté.
Le contraire.
Il va faire le contraire. Il va dire, Even, Aleph, Bet, Nun, il va commencer. Moi, je connais pas les combinaisons qu'ils font. Il va commencer les combinaisons, il va faire le même chemin, mais dans l'autre sens. Ça va lui permettre d'arriver jusqu'à la source, et là, ça va lui permettre de comprendre comment les choses ont été faites.
Tu vois, c'est concept, en fait, c'est le processus.
Je crois pas qu'il puisse arriver jusqu'à la source.
C'est le processus de...
Personne n'arrive à la source. Mais plus tu montes haut dans la source, et plus tu comprends.
C'est exactement le processus d'Abraham Avinu pour savoir qu'il y avait un créateur, en fait. C'est exactement ça.
Bien sûr, exactement. Tu sais, l'informatique, ça nous aide beaucoup à comprendre ça. Aujourd'hui, on utilise des interfaces. Aujourd'hui, on utilise une interface qui s'appelle, par exemple, Windows ou Mac, enfin bon, selon les... D'accord?
Linux.
En fait, tu utilises Windows. Bon. Tu utilises Windows. Windows, c'est la dernière couche. Dans Windows, t'as un programme. T'as un programme informatique qui va s'appeler Word. D'accord? Tu vas taper dedans ton texte. Tu sais combien de couches il y a pour arriver à ce programme Word? D'abord, tu as le programme Word. D'accord? Après, tu as, si tu remontes un peu plus haut, tu as Windows. Si tu remontes encore Windows, tu as le DOS. Si tu remontes encore plus haut, tu as le BIOS. D'accord? Après, plus tu avances, plus tu montes dans le hardware, etc. Jusqu'à que tu arrives, c'est des couches. Et plus tu arrives à monter, qu'est-ce qu'il te dira un informaticien? Il te dira, plus tu arrives à comprendre, à monter de niveau, et plus tu comprends ce qui se passe. Plus tu maîtrises la chose.
Binaire.
D'accord? Plus tu montes, et plus tu comprends ce qui se passe. Exactement, c'est la même chose avec les Tzadikim. Les Tzadikim, ils réfléchissent en binaire. Donc, voilà. Donc, quel est le plus d'un ange par rapport, d'un prophète par rapport à un homme? C'est que le prophète, lui, quand il reçoit un message dans des mots, bah, il arrive à remonter, il arrive à percevoir l'énergie qui s'est cachée derrière.
Mais il le reçoit quand même.
D'accord? Bien sûr qu'il le reçoit. Il le reçoit et il arrive à percevoir l'énergie qui se cache derrière. Il sent quelque chose de très fort. Ce prophète après va venir et va nous répéter le message. Nous qui ne sommes pas prophètes, on va pas percevoir la même énergie que lui. Pourtant c'est les mêmes mots. Pourquoi? Parce que le prophète va faire descendre encore l'énergie. Mais en vérité, nous on reçoit les mêmes mots qu'il a rendu.
Mais
ces mots c'était les vecteurs de communication. Ça veut dire qu'en vérité, un autre prophète qui entendra ces mots sera capable de dire derrière ces mots se cache ce message. Seulement nous on l'entend pas.
On l'entend pas.
Donc il y a des messages codés. Et c'est ça la Torah. C'est ça la Tfila, c'est des messages codés. Il y a un standard de messages.
Alors celui qui ne connaît pas tout ça, qui fait cette fila.
C'est-à-dire, on va prendre l'exemple. Imagine-toi, d'accord? Imagine-toi.
Quelle valeur a cette fila?
Toi tu es prophète. D'accord? Toi tu entends un message de Dieu. Dieu il te dit, Anochi Hashem Elokecha. Pac. Tu me le répètes alors. Moi je suis pas prophète. Tu me répètes. Je dis, bon d'accord, tu as dit ça. D'accord, ça va. Lui il va venir me dire, alors qu'est-ce qu'a dit le prophète? Je vais lui répéter. Mais lui il va percevoir la même énergie que toi t'as perçu. Parce que les mots c'est un code, c'est des codes les mots. Et la force du prophète, c'est qu'il est capable de prendre un mot et de monter jusqu'à retrouver l'énergie qu'il y avait derrière.
Pourquoi tu dis un prophète?
Là, on parle des prophètes, parce que Vaïda Berachem, Moshe Lema, chaque fois que Dieu parle à...
Ça dit oui, mais un prophète, je vois pas.
Parce que chaque fois que dans la Torah qu'on dit qu'on emploie le terme Vaïda Ber, que Dieu a parlé à quelqu'un, c'est un prophète. Toujours. Quand Dieu a parlé à quelqu'un, bah oui, c'est quoi un prophète? C'est quelqu'un à qui Dieu parle.
On avait dit que Vaïda Ber, c'était quand ça parlait dur.
Oui, mais chaque... après, c'est des formes, des subtilités. Mais chaque fois que Dieu parle à quelqu'un, ça veut dire que c'est un prophète.
C'est
quoi la dernière fois que Dieu t'a parlé?
Ça fait longtemps.
T'as parlé?
Oui.
Il t'a parlé?
Oui.
Tu l'as entendu parler?
Oui.
Bon, alors t'as une forme de prophétie.
Oui, mais c'est pas souvent.
Ça peut revenir. Moi, Dieu, il m'a jamais parlé.
Ouais, voilà. Voilà.
Perçois des messages.
Alors, tu te moques.
Hein? Moi, je me moque pas.
Je vous connais, moi. Vous vous moquez.
T'as reçu un message ou Dieu t'a parlé?
C'est ça, les deux.
Allez, c'est pas la même chose. Attention.
Non, mais qu'est-ce qui...
J'ai eu les deux, j'ai reçu les messages.
Non, je me moque pas, je te pose une question sincère.
Tu le sais, quand ça t'arrive, tu vois bien que t'es pas dingo, quoi.
Ah bon?
Bah oui, bah attends.
Je veux la même chose. Qu'il y a un sentiment, c'est vrai, il y a des gens qui ont ce sentiment-là.
T'as vu, il y a qu'un verre.
Non, on se moque pas, hein.
Sinon, mais on est obligé de se moquer. Moi, tu me dirais ça, moi je me moquerais aussi.
Une fois, je me rappelle quand j'étais à l'école, il y a une fois, un juif qui est passé, je crois qu'il est toujours en vie d'ailleurs, quelqu'un qui est passé par la Shoah. Il était, quand il y avait la Shoah, il était à Paris. Quand il était à Paris pendant la Shoah, il avait 7 ans. Et sa mère était déjà niftar quelques temps avant. Et une nuit, comme ça, il rêve. Il y a sa mère qui vient le voir. Et il a l'impression qu'il y a sa mère à côté de quelqu'un d'autre. Qui lui donne un message et qui lui dit, ils vont arriver ce soir, il faut que tu ailles te cacher. Ils sont arrivés ce soir. Il m'a dit plusieurs fois comme ça, ma mère elle me guidait. C'est des choses claires, quoi. C'est pas un truc du pipeau. C'est des choses que ça a été validé tout de suite après. Le soir même, c'est validé. Extraordinaire, il nous le raconte à chaque fois. Il nous accompagnait au parc, etc. Un grand. Ah, il doit être vivant encore, de Radachan. J'espère. Monsieur, comment
il s'appelle? Il y a beaucoup d'histoires comme ça.
Ah, mais extraordinaire. Il m'a dit, c'est même pas Emouna. C'est même pas Emouna, c'est, tu vois. Tu vois, on t'a dit ce soir ils vont arriver, le soir ils sont arrivés. Il n'y a pas à chercher. Tu iras là-bas, tu vas ouvrir une porte, derrière cette porte, il y aura une cachette. Tu ouvres la porte, c'est une cachette, c'est pas shoot.
C'était comme ça,
hein. Non, moi ce que j'ai pas compris, c'est qu'une fois ça parlait dans le ventre, et une fois ça parlait en haut.
Bon,
c'est très bizarre. Comme
ça, c'est...
Oh, mais l'histoire de Jacob, elle est spéciale, elle est un peu...
Non, chacun va avec ses messages.
D'ailleurs, j'aurais pas dû en parler, parce que le fait d'en avoir parlé, ça a coupé le...
Ah, pas du tout.
Faut jamais se moquer, chacun porte ses messages.
Ah non, pas du tout, quand je dis ça, pas du tout.
Non, mais... Non, ça coupe
C'est comme si on pouvait bon. Parler que
Dieu. Ouais, t'as parlé,
tu l'auras plus.
Bon, messieurs, maintenant on passe au Perek Gimel. Veiné. Allez. Messieurs, on y va. Maintenant on passe au chapitre 3. Vous avez le chapitre 3?
Mais il doit s'exprimer à chacun d'entre nous, sauf que nous on n'est pas capable d'entendre.
Non, c'est pas qu'il s'exprime, non, attention. Dieu ne nous parle pas. Sinon, Dieu envoie des messages.
Oui, nous on n'arrive pas des fois à les capter.
Dieu envoie des messages, il y en a partout des messages.
Moi, le tonnerre hier, c'est quoi ton genre de message?
T'as le devoir de nous dire.
Je pense que
tu vas finir comme Yona.
On a dit au cours, ça va être midi, comme quoi, des fois le ciel il s'ouvre et.
Non, c'est parfait. Ça va finir dans une baleine.
Tu veux honnêtement, au jour d'aujourd'hui, le tonnerre est un message beaucoup moins fort qu'à l'époque. À l'époque, ils avaient des maisons frêles.
Quand même, hein.
Ils avaient des maisons en bois. Donc l'effet était très très fort.
Comme à Montreuil.
Dès qu'ils sentaient le tonnerre, ils sentaient que la maison allait exploser. De nos jours, on est à la maison, t'es là, tu continues, tu sais qu'il va rien se passer, ta maison ne va pas bouger. T'as les paratonnerres, t'as etc. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué à ressentir aujourd'hui. Non, bien sûr, la bracha, c'est qu'on sent la force de Dieu, etc. Mais c'est beaucoup moins fort qu'avant. Vous avez déjà été dans la mer, vous avez déjà été en bateau quand il y avait du tonnerre, des éclairs? J'étais une fois, c'est extraordinaire.
Comment?
Ah, je peux vous dire, c'est extraordinaire. Là, c'est une sensation.
Il y a pas de vague alors.
C'est beau.
Si, ça dépend. C'est pas pour autant que la mer est spécialement agitée.
C'est les éléments, quoi. Tu te sens petit.
Enfin, tu te sens comme ça. Là, c'est spécial, ça. C'est très spécial. Là, tu sens quelque chose. Mais comme ça, dans une maison, dans un immeuble, tu risques rien. Qu'est-ce que c'est?
Ça
part à Montreuil, comme tu dis. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé à Montreuil? Les trucs s'est écroulé? Ah ouais?
Un échafaudage, ouais.
Voilà. C'est quoi, c'est...
À cause du temps. Non, un hôtel qui était désaffecté, qu'ils ont mis des étaiements pour le faire, il s'est écroulé, il a écroulé la maison d'à côté. Ils disent peut-être que c'est à cause des orages, ça a fragilisé.
Mais c'est hier soir ?
Dans la nuit.
Faire avec guillemets, allez, chapitre 3. Ve'ine acharei advarim ve'aemet ha'ele. Donc on est au chapitre 3, à la page suivante. Acharei advarim ve'aemet ha'ele. Après toutes ces paroles et toute cette vérité qu'on a expliquée. Vous voyez comment il définit cette vérité. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a essayé d'expliquer la vérité des choses. C'est ça ce qu'on essaye de faire. Alors, kol maskil al davar, toute personne qui veut réfléchir, yavin la ashuro. Regardez bien la conclusion à laquelle il va arriver. Si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'on a expliqué ? On a expliqué qu'en vérité, même les mots qu'on entend, en vérité, c'est pas des mots, en vérité, c'est de l'énergie. Que même la matière que nous, on voit, en vérité, c'est pas de la matière. C'est une énergie qui est descendue, jusqu'à que cette matière est devenue, jusqu'à que cette énergie est devenue matière. Donc si je réfléchis bien, et que j'arrive à la conclusion qu'on voit à laquelle j'arrive, j'arrive à la conclusion que Ersh Kol Nivra Veyesh, que toute créature et toute chose qui me paraît existante, ou Behemet Nershad Laïn Defes Mamash. En vérité, c'est du néant, c'est rien du tout. Si on réfléchit bien. Ben oui. Parce que on est parti d'un élément de départ. On a dit que même ce qui nous paraît être kadosh, comme la parole. Non, c'est pas la parole qui est kadosh. La parole, c'est une interface. En vérité, c'est l'énergie qui est derrière. Tu vois une table. Comment c'est devenu une table dure? Mais non, en vérité, c'est pas une table. C'est de l'énergie qui est descendue jusqu'à ce que c'est devenu une table.
Elle sert à qui? À nous seulement?
Tout ce qu'il y a dans le monde est une énergie. Il n'y a pas une chose dans le monde qui n'est pas liée à l'énergie. C'est elle qui fait tourner les choses. Tout ce qu'il y a dans le monde est énergie.
Ben oui.
Il n'y a rien dans le monde qui n'est pas énergie.
Brûle cette table, tu vas voir l'énergie qui dégage en chaleur.
A priori, descend. Non, tu le vois pas. D'accord ? Alors si on a bien compris le principe qu'on a expliqué, on va développer encore. Qu'est-ce qu'on a compris ? On a compris qu'en vérité, toute chose qui est que nous on appelle créée et existante, en vérité n'existe pas. C'est-à-dire, en vérité, à la base, c'était une énergie qui n'était pas une créature. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je vois une table qui me paraît solide. Cette table, elle est solide, cette personne, intouchable. Mais en vérité, quand je remonte, et ça, c'est la force du tzaddique. Quand il remonte, il voit pas une table, lui. Qu'est-ce que j'ai dit dans les mots? Je reprends l'exemple que je donnais dans les mots avec le prophète. J'ai dit, Yaakov a entendu un message de prophétie de Dieu. Lui, il me l'a dit à moi. Moi, je suis pas prophète, donc j'ai perçu que des mots. Pour moi, c'était basique. Je transmets ces messages à Dan, qui est aussi prophète. Qu'est-ce qu'on a dit? Lui, il va avoir une énergie. Ça veut dire que le mot est vecteur d'une énergie. Ça veut dire qu'en vérité, moi, même si moi le mot me paraît basique, en vérité, ce mot-là cache une énergie extraordinaire. Mais ça veut dire qu'en vérité, le mot, c'est une interface, c'est rien. C'est le message qui est descendu. Mais en vérité, à la base, le message, c'est une énergie qui est très très forte, qui est descendue. Et qu'il faut être la bonne personne pour être capable de capter l'énergie qui se cache derrière le mot. Mais l'énergie est là. Mais d'accord? Ça, c'est en physique, c'est un principe de base. C'est-à-dire que c'est pas parce que je le vois pas qu'il n'y a pas de l'énergie. D'ailleurs, on sait qu'il y a de l'énergie. Quand plus on avance dans les éléments, et plus on voit qu'il y a de l'énergie. Il n'y a que de l'énergie, c'est que ça.
D'accord. Il y a une interaction entre les éléments, entre les différentes, voilà, on dit la table et la bouteille, ou
oui,
la chambre.
Bien sûr.
Oui,
bien sûr. Bien sûr. Ils expliquent en physique que tu poses une bouteille, sur la table, d'accord? Il y a une trace sur la bouteille du fait qu'elle était sur la table, et il y a une trace sur la table du fait qu'il y avait une bouteille sur elle. Toi, tu le vois pas à l'œil nu.
C'est obligatoire.
Obligatoire. C'est impossible qu'il n'y ait pas de trace.
C'est fort, c'est...
Donc, c'est sûr qu'il y a une interaction. Obligé.
Pour ça,
il n'y a rien qui ne fait pas d'interaction. Tout laisse une trace. Il n'y a rien dans le monde qui laisse pas de trace. C'est impossible. Ne serait-ce que je respire, la salle ici, il y a une trace du fait que je respirais.
C'est pour ça ce qui enveloppe le cerveau. Ça devient kadosh aussi.
Bien sûr. Alors, mais à quelle conclusion je vais arriver? C'est une conclusion, vous inquiétez pas, qu'on va développer dans les semaines qui suivent. Parce que c'est une conclusion qui est bien, bien, bien développée. Si on a bien compris la conclusion que l'Admor HaZaken a dit ici, on a compris qu'en vérité, à la base, même ce qui nous paraît être une créature matérielle, physique, etc., en vérité, c'est une interface. Et on te fait croire, c'est descendu. Mais qu'une personne qui a des bons yeux, au travers de cette interface, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une énergie extraordinaire. C'est-à-dire que le tzadi qui vient, il ouvre les yeux, il regarde cette table, il voit pas la même table que moi. Pourtant, c'est la même table. Parce que moi, ce que je vois, c'est seulement le message quand il est descendu tout bas. Je vois la dernière étape. Le tzadik, lui, a des meilleures lunettes. Il est capable de mieux voir que moi. Il est capable d'aller plus loin. Mais si je comprends bien, ça veut dire que finalement, c'est une question de lunettes. Et que si je vois pas l'énergie, c'est parce que j'ai pas les bonnes lunettes. Mais en vérité, l'énergie est là. Et qu'en vérité, si on remonte, on remonte, on remonte, on trouvera toujours que de l'énergie. Et qu'à la base, tout le monde n'est qu'une seule énergie.
On va trouver quoi? On va trouver que l'énergie de la table, finalement, nous sert à être...
Mais non, et justement, c'est quoi le problème? C'est que après, on va monter, 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 et finalement, qu'est-ce qu'on va voir? Que tout le monde est une seule énergie. C'est-à-dire que tout ce qui me paraît être des entités différentes, des structures, etc.
Il y a un but dans tout ça.
Bien sûr qu'il y a un but. J'ai compris, mais qu'est-ce que je vais expliquer par là? C'est qu'en vérité, dans l'absolu, dans la réalité des choses, c'est que les choses sont vraiment, je sais qu'on ne le voit pas. C'est pas grave qu'on ne le voit pas. Mais dans l'absolu, en vérité, ce qu'on voit ici n'existe, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est que la forme physique, matérielle, grossière qu'on voit, en vérité, c'est une illusion qu'on a.
Parce que ça a été créé pour un même but.
Oui, mais c'est une illusion. En vérité, il y a une énergie qui se cache derrière. Est-ce que vous avez bien compris ce que je veux dire ici? On va développer.
Ça rappelle un des chapitres où tu avais parlé de l'énergie brute avant qu'elle ne s'affine.
Oui, on avait parlé, mais ça c'est maintenant on développe.
Qu'est-ce que ça fait, la beauté dans l'histoire?
Il n'y a aucune beauté, moi je veux comprendre comment ça a été fait, c'est tout.
Non, je veux dire, quand tu vois quelque chose, si tu vois
pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait.
On dit que les tzadikim, quand ils voient le monde, ils voient, comment on appelle ça, ils voient la présence de Kohar Eloki Pashut. Ça veut dire une énergie divine à l'état brut. Il voit pas qu'il y a telle énergie. Il voit Dieu partout. C'est très spécial, mais on n'arrive pas à comprendre ça. C'est comme si, imaginez-vous, je vous dis, vous mettez des lunettes spéciales et vous voyez des atomes partout. Vous voyez plus la table, la chaise, la bouteille. Vous mettez des lunettes spéciales et vous voyez partout des atomes.
Est-ce qu'un sadique, il trouve comme les gens habitués, il trouve que quelqu'un il est beau, quelqu'un il est moche, etc. Est-ce qu'ils ont cette notion?
Oui, mais il est capable de dépasser.
Donc il y a une notion.
Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-nous où tu bosses.
Tu fais contrôle.
Non, continue.
Vas-y. Non. C'est Windows, vas-y,
tu veux. Tu comprends, si tu vois que l'énergie est brute, tu vois plus l'interface qui s'appelle la beauté.
Oui, j'ai compris. Bon, après, il peut descendre comme il veut. Ce qui peut le plus, peut le moins. C'est ce qu'il veut. Tu comprends, David, où on en est?
Oui, continuons.
Est-ce que tu as compris ce qu'on a expliqué?
Je crois bien compris ce qu'on cherche.
Ce qu'on cherche à expliquer, c'est qu'en vérité, tout ce qu'on voit dans le monde autour de nous, c'est une interface.
Donc c'est une illusion quelque part.
Non, j'ai pas dit que c'est une illusion.
Et alors
j'ai pas dit ça.
C'est une illusion.
Regarde, imagine-toi, tu vas prendre un physicien qui va te prendre, imagine-toi qu'on va créer des lunettes spéciales.
D'accord.
Écoutez-moi.
Les 3D, par exemple.
Des lunettes spéciales. Tu mets ces lunettes.
Rayon X.
Tu vois que des atomes partout.
Rayon X.
Directement.
Oui, tu es capable de voir la matière à l'état brut.
C'est capable de voir la matière à l'état brut. Et ben, tu verras des atomes partout.
D'accord.
Tu verras plus que ça, c'est de l'eau. Alors. Ça, c'est une bouteille. Ça, c'est une table. Tu vois des atomes partout, même dans l'air.
C'est une illusion quand
d'accord
tu vois une bouteille.
Pas du tout. C'est pas une illusion.
C'est pas une illusion. Hein.
C'est pas une illusion. C'est que quand ça descend, ça s'est matérialisé. Bien sûr. C'est pas une illusion. C'est vrai.
Mais ta manière de voir est illusoire.
Mais finalement, c'est une illusion qui est à cause de l'homme.
C'est à cause pour l'homme.
C'est pour l'homme. Ça veut dire que comme j'ai pas des bonnes lunettes, donc je vois pas.
Oui. Et qu'est-ce qu'on devrait voir à la place de la table?
Vous savez, c'est comme, je sais pas qui c'est, voilà, qui c'est qui porte des lunettes ici? Quand on enlève, moi je porte des lunettes, j'ai un degré assez fort, d'accord? J'ai moins 7. J'enlève mes lunettes. Je vois que des formes. Et je peux pas faire la différence entre une personne et une autre. Je mets les lunettes, je vois les détails. C'est des lunettes. Ben, de la même manière, ce qui explique ici. Et qu'en vérité, quand on met les bonnes lunettes, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en vérité, il n'y a pas de yesh. C'est quoi le yesh en hébreu? Le yesh, c'est-à-dire une existence indépendante, qui peut aller même à l'encontre de Dieu. Ça n'existe pas. Celui qui a des bonnes lunettes, il voit que c'est impossible, ça n'existe pas.
Ça, je comprends.
Sauf que, pour nous donner le libre arbitre, c'est ça que j'ai expliqué, que c'est un sujet qu'on expliquera dans la suite, Dieu est obligé de nous créer cette illusion. Mais c'est une illusion, finalement, tout ça. Parce qu'en vérité, c'est faux. En vérité, il y a de l'énergie partout. Il n'y a que de l'énergie. Et de l'énergie divine. Parce que, en physique, ils sont montés jusqu'à l'atome, c'est ça? Ils sont montés...
Le quark,
oui, on a dit. Mais ils sont pas allés plus loin. Peut-être qu'un jour, on ira plus loin.
Ouais, mais d'ailleurs, quand ils avaient trouvé l'atome, le mot atome, ça veut dire qu'on ne peut plus couper. Il s'avère que c'était une vérité à l'époque et qui est devenue...
Et voilà, et bien, peut-être qu'un jour, qu'on comprend le quark aussi, on arrivera... Mais ce qu'on voit, c'est que plus on avance, et plus on arrive à des éléments spirituels. C'est-à-dire des éléments qui sont beaucoup moins physiques, matériels, grossiers.
Mais de toute façon, l'hypothèse, c'est de dire que l'intérieur de ces particules, c'est de l'énergie.
Bien sûr.
On quitte la matière pour entrer
dans l'énergie. La physique nous aide beaucoup à comprendre ce genre de choses.
Il faut qu'il y ait du mouvement, alors, après.
Mais oui, c'est le mouvement, qui crée la masse. C'est ça, hein, qui c'est qui dit ça?
E égale mc2.
Voilà, c'est le mouvement qui crée la masse.
Non, c'est pas ça, mais quand tu poses la main sur la table, étant donné que la vitesse des électrons en ce noyau est très très rapide...
Exactement.
Toujours sur l'idée.
Donc c'est l'énergie qui crée la masse.
Je prends une particule,
la théorie du
Bourrin. Ouais, on va du Bourrin.
David,
David, comme ça on va dormir bien.
Ah, ouais, chef.
On a besoin de passer une bonne nuit parce que la nuit prochaine, elle sera.
Je t'échange les cours.
Elle sera.
Mais arrosée.
Mais
arrosée.
Il y a
ça, ça ne dérange pas d'ouvrir un peu la porte du très chaud.
Oui, c'est très chaud, effectivement.
Non, il ne fait pas chaud.
C'est de l'énergie.
C'est l'énergie.
Lundi, on t'a gagné ta part de notre côté.
C'est gentil, j'ai déjà mangé à la maison, c'est gentil. Mais bon, je goûterai un peu si tu veux. Là-bas aussi, il y a une grande part. Ça me dérange.
On
ne
va pas lui garder ta part, alors.
Non, je suis plus, parce que
je suis pas sûr. Tu veux pas ramener plus tard.
Non, merci. Ok. Allez, messieurs, on relit dans les mots, on va faire 5-6 lignes et on s'arrête. Pour ça, on va pas trop compliquer les choses, on a déjà bien compris.
Pas mal le chien.
Féiné.
Féiné. Merci.
C'est bon, on y va.
Allez, on retrouve tous les commentaires que tu lis, ils ont été écrits à quelle époque?
Ça?
Oui.
Ce commentaire a été écrit à 200 ans à peu près.
200 ans, donc vous n'avez aucune notion de physique?
Aucune. Et c'est pas ça, il se base sur des éléments du Harizal, du Zohar, etc. Encore plus anciens.
C'est qu'après, quand on a...
Oui. Mais comme explique le Rabbi, il expliquait souvent, c'est que que non seulement que la science ne contredit pas la Torah, mais la science nous aide à comprendre la Torah. Mmh.
Sauf.
C'est que si Dieu a fait que plus on avance dans les générations et plus la science se développe, ça veut dire que l'approche qu'on doit avoir envers la science, il y a beaucoup de groupes religieux qui disent non, ils disent il faut écarter la science. Le Rabbi dit pas du tout. Il dit la science doit nous aider à arriver à la Torah. Et c'est possible que des fois, on croit qu'il y a des conflits, c'est pas grave. On n'a pas peur des conflits.
Ça ne dure qu'un temps.
Ça veut dire que maintenant, on n'a pas encore compris.
Mais c'est pour ça que beaucoup de rabbanim, quand il y a eu la découverte de tous ces trucs-là, ils ont dit, ça ne nous étonne pas, c'était déjà écrit.
Oui. Non, mais des fois, la science, des fois, il y a des conflits.
Oui, ça oui.
C'est pas grave, on n'a pas peur d'un conflit.
On ne sait pas assez de choses.
Voilà, c'est qu'on ne sait pas encore assez de choses. On n'a pas encore développé. Bon, ben, on va prendre le temps qu'il faut. Peut-être qu'on n'a pas bien compris certains des aspects de la Torah, si c'est possible.
Ça augure aussi de...
Aussi qu'on ait des choses. Mais l'un dans l'autre, ça marche. Veine. Acharé, advarim vaemet haele. Donc on reprend le chapitre. Après toutes ces paroles et toute cette vérité, kol maskil al davar yavin l'ashuro. Chaque personne qui voudra réfléchir, parce qu'il faut réfléchir. Yavin l'ashuro, il comprendra parfaitement. Er, she kol nivra veyesh. Comment toute créature, même le sushi qui est devant moi. On erchav lein vefes pamash. En vérité, il n'y a pas de sushi devant moi. Il y a une énergie divine qui s'est traduite en sushi.
Je confirme.
D'accord. Legabe koach apoel de ruach piv chez Benifal. Qu'en vérité, il y a une énergie. D'accord. Et que cette énergie s'est traduite. Quand moi je vois cette énergie, je crois que je me dis, ah, il y a un objet. Donc, en hébreu, on appelle ça le poel et le nifal.
Voilà.
C'est quoi le poel et le nifal?
Le
poel, c'est celui qui agit, c'est celui qui crée, et le nifal, c'est le produit fini. D'accord? Donc, moi, j'ai créé quelque chose, et après, le produit fini, je sais pas de quoi il aura l'air.
Comment ça se traduit, toi?
Poel, nifal, oui, bien sûr.
C'est pas plutôt le potentiel et le réel?
Non. Poel, c'est celui qui est poel, celui qui fait, là, c'est celui qui réagit, et nifal, c'est celui qui reçoit la réaction.
Bon, d'accord. C'est
sauf que là, le problème, c'est quoi le problème? C'est que la réaction ne s'arrête jamais. Plus tu avances, plus elle descend, devient physique. Et donc, plus une personne cherchera la matérialité, et plus il la trouvera. Et pas de problème. Parce que ça peut descendre autant que tu veux. Moins tu enlèves tes lunettes, plus tu enlèves, moins tu vois. C'est aussi simple que ça. Plus tu mets des lunettes, mieux tu vois. Chaque fois qu'on fait des mitzvot, qu'on avance dans la kdusha, on a des meilleures lunettes, on perçoit le monde différemment. Ce qui veut dire ici. Mais finalement, ce qu'on comprend, c'est quoi? C'est qu'en vérité, dans l'absolu, j'ai pas dit qu'on le voit, j'ai pas dit que les tzadikim le voient forcément, mais dans l'absolu, en vérité, en vérité, tout ce qu'on voit qui nous paraît être du dur, en vérité, c'est rien, c'est walou, c'est rien du tout. Ameave ototamid mutsio mainesh mamash. Et que plus que ça, que si j'ai devant moi une table qui me paraît en dur, pour que cette table soit en dur, je dois avoir une énergie à cet instant même qui est en train de la créer. Donc si je vois cette chose-là, imaginez, nous on donne de l'importance au corps, au matériel, etc. Mais imaginez-vous que le tzadik, il voit constamment comment le spirituel est en train de créer le matériel. Comment tu veux qu'il accorde de l'importance au matériel dans ce cas-là? Si tu vois le rouage, tu vois que c'est le spirituel qui est en train de créer le matériel. Il ne peut pas accorder de l'importance, c'est impossible. Le problème, c'est qu'on n'a pas les bonnes lunettes, d'accord. Mais c'est le rouage, c'est comme ça que ça se passe. Ou ma shekol nivra venifal nir alanul yashuvamashut. Le fait que chaque créature, à nos yeux, nous paraît quelque chose de créé, quelque chose de concret, quelque chose de physique, de tangible. Zehu mechamat shenanu masigim v'orim ben nebasar et koach hashem v'rafu shemeniva. Je vais vite parce que j'explique à l'oral. C'est parce que on n'arrive pas à voir. Aval, mais ilu nitna reshut le'ain. Si Dieu avait donné la permission à l'œil, l'irot ou l'éasig et tachayut va'ochnu chez Bekol Nivra, de voir, si Dieu avait donné la permission à l'œil de voir et de saisir l'énergie que c'est dans chaque créature, eh ben, a chauffé à bom imot sapi hachem vroar piv, lo ya gashmiut anivra vechumro, nir aklal le'enenu. On n'aurait pas vu du tout le matériel. Alors je vais illustrer ça par une histoire et je vais finir avec ça. On parlera aussi un petit peu de Matan Torah. Il y a une histoire qu'on raconte très connue avec l'Admour Hazaken. L'Admour Hazaken, donc c'est lui qui a écrit ce livre, et c'était quelques instants avant sa mort. Il a appelé son petit-fils, qui allait devenir plus tard le Tzemar Tzedek, lui-même un grand rabbi qui allait devenir plus tard un rabbi. Il lui a dit, il lui a montré le toit. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vois ? Alors, il a dit, je vois le toit. D'accord ? L'Admour Hazaken lui a répondu, il a dit, et moi, vous avez le dit, il a dit, et moi, je vois le Kohar Apoel Benifal. Je vois la force du Créateur dans la créature. Je vois la parole de Dieu qui est en train de créer ça. Ça, c'est le niveau auquel Admour Hazaken était juste avant de partir. On sait que les gens, juste avant de partir, ils sont à un niveau extraordinaire. Mais tout le monde, hein. Juste avant de partir, ils sont à un niveau énorme.
Tout le monde.
Tout le monde. Après, ça dépend de ce qu'ils en font. Mais tout le monde, juste avant que l'Aneshama, les quelques heures, les quelques minutes, les quelques instants avec l'Aneshama, elle part, l'Aneshama est à un niveau extraordinaire. Elle voit des choses énormes. D'ailleurs, ils sentent qu'ils vont partir. Ils sentent, parce qu'ils voient, on dit qu'ils voient. Des fois même, il y a des gens qui vous disent qu'ils sentent qu'il y a comme des forces, des anges qui veulent les prendre. Ils sentent des choses très très fortes. C'est un des moments les plus forts de la vie. Le moment dans lequel une personne va partir. Qu'est-ce qu'il a dit ça ? Donc qu'est-ce qu'il a dit là de Mourazaken ? Il a dit, je vois pas le toit. Je vois l'énergie de Dieu qui est en train de créer le toit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors le rabbi une fois il a posé la question, il a dit ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Admour Hazaken ne voyait pas le toit à ce moment-là ? Il voyait pas un toit ? Il voyait pas qu'il y avait un toit ? Il voyait que Dieu ? Non, c'est pas ça. Il voyait qu'il y a un toit. Mais il arrivait à voir au travers du toit l'énergie divine qui se trouvait derrière. Ça c'est un niveau très très fort. C'est exactement ce qu'il a expliqué.
Pourquoi il a parlé du toit précisément là ?
Parce que bon, il était là, allongé sur son lit. Qu'est-ce qu'il voit quand il est allongé sur son lit ?
Je veux dire, je sais pas, la chaise, la table.
Le toit ? D'accord, il a montré le toit, c'est tout.
Il est allongé,
il est comme ça. Qu'est-ce qu'il montre ? Première chose qu'il voit, c'est le toit. C'est l'image qu'il voulait lui expliquer. Et il voulait raconter à son petit-fils, qu'il était... Il faut savoir que ce petit-fils, qui était le Tzemar Tzedek, il était très très proche de son grand-père. Parce que, à un certain moment, il y avait une xéra, il y avait un décret, l'Admour Hazaken devait partir de ce monde. Et sa fille a rassemblé un bed-din, et elle leur a dit, je donne ma vie à mon père. Comme ça, elle a dit. Ils ont essayé de l'empêcher, mais elle a dit non.
Parce que tu disais ce Shabbat qu'il appelait son grand-père son père ou...
Ah oui, c'est une autre histoire ça. Alors, donc elle a... Donc, la fille a donné sa vie à son père. Et personne ne pouvait l'en empêcher, elle a donné sa vie à son père. Son mari était d'accord, tout le monde était d'accord, elle a donné sa vie à son père.
Devant un tribunal.
D'accord ? Devant un tribunal. Quelques jours plus tard, elle est morte. Mais elle a juste demandé une chose à son père. Elle a dit, est-ce que tu peux t'occuper de mon fils ? Elle avait un fils. Tzemar Tzedek. Et donc, ça s'est passé quand il avait 5 ans. Ce fils-là qui a vu, qui est le Mourazaken.
Il a le droit de faire ça.
Ah, c'est l'histoire du Tzadikim, ça.
Tu peux pas comprendre.
Ah ça, on a des histoires comme ça extraordinaires.
Enfin, tu vois un toit, toi.
Là, je vois des dalles.
Tu connais pas, par exemple, des histoires avec...
Je vois la lumière.
Des histoires avec Rabbi Chaim Pinto.
Ça vaut mieux, parce
une fois, il y a sa fille,
toit,
une fois, il y a sa fille qui a ouvert la porte sans permission, et elle l'a vu en train d'étudier la Torah avec Eliyahu Navi.
Moi, je t'ai
raconté. D'accord. C'est une histoire. Elle l'a vu en train d'étudier la Torah avec Eliyahu Navi.
Qui ?
La fille de Rabbi Chaim Pinto. Elle a ouvert la porte, elle a vu en train d'étudier la Torah avec Eliyahu Navi. Elle a perdu la vue. Mais clair. Et après, il a dû faire des filettes et tout pour lui ramener la vue et pour qu'elle oublie ce qu'elle a vu. C'est clair, c'est des choses... On n'est pas du tout... Tu comprends, nous, quand on rentre à la maison, je sais pas moi, tu vas allumer ton ordinateur, ta télé ou je sais pas quoi, elle ouvre la porte, elle voit Léonie.
Non, c'est juste que c'est dans une situation. Tu veux ouvrir la porte à tel moment, c'est juste qu'il
a fait. Dis-moi, c'est...
Non,
c'est libre à vue.
Parce que
de l'autre qui s'est retourné.
Exactement, et voilà.
Là, elle était prévenue.
Elle n'a pas été prévenue.
Elle n'a pas été prévenue. On ne retourne pas. On ne lui a pas dit ce qu'elle allait avoir.
Elle s'est levée un nuit pour aller aux toilettes. Elle ouvre la porte pour voir son papa. Elle voit une lumière. Qu'est-ce qu'elle fasse ?
Elle devait pas.
Bon, alors je reviens au sujet. Donc ça veut dire quoi ?
Non.
Ça veut dire que l'Admour Hazaken ne voyait pas le plafond ? Oui, il voyait le plafond.
Mais
au travers du plafond, il voyait la parole de Dieu qui se cachait. C'est comme dans les mots. Est-ce que le prophète voit les mots? Est-ce que le prophète voit les mots? Bien sûr que le prophète voit les mots. La preuve, il les répète. Mais le prophète ne voit pas les mots.
Il voit l'énergie.
Il voit l'énergie qui se cache dans le mot. Et ça, pour faire ça, il faut être un prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à quelle conclusion? On arrive à la conclusion qu'en vérité, tout ce qu'on voit dans le monde autour de nous, c'est que des interfaces, c'est que des illusions.
On a découvert la banque aussi. Là.
D'accord? C'est la banque, c'est une illusion. La création.
Oui, mais pour
qu'on puisse. Attention, je n'ai pas dit que. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas accorder de l'importance à cette illusion. Je reste le shalom.
Bien sûr que c'est notre vie.
Mais c'est important de comprendre ça pour savoir remettre les choses à leur place.
Oui, mais bon.
D'accord. Alors, je voudrais finir avec ce dernier point, puisque demain soir, on va se rattacher à ce matin de Torah.
C'est compliqué quand même, Tom.
C'est très compliqué. C'est même incompréhensible. Puisque demain soir, Bezrat Hashem, c'est Matan Torah.
Donc,
tu sais, David, c'est comme dans les. C'est comme quand tu vois des fois dans les facs, dans les universités, tu les vois, ils te parlent de philosophie, etc. Ils font genre qu'ils comprennent tout, alors qu'ils comprennent que dalle, tu vois, mais ils disent des mots aux Zermain, on comprend. Nous, on essaye de comprendre un petit peu.
Non, mais j'essaie de comprendre la demande à laquelle ils vont venir un petit peu dans l'idée générale.
Je vais raconter une petite histoire du rabbi précédent. Le rabbi précédent, il a raconté une histoire, il a dit, il y a deux personnes qui vont se lever le matin. Une personne qui va se lever le matin qui n'est pas chasside, et un autre qui est chasside.
D'accord. Famille d'Aguel.
Non, pas forcément une daguette. Le non chasside, il va se lever le matin, d'accord. Il va étudier un petit peu avant la fila, il va étudier une bonne halakha, il va faire cette fila comme il faut. Après, il étudiera. Mais peut-être, pourquoi pas, bon, peut-être. Pas spécialement, non, pas spécialement. Mais il va étudier des choses concrètes. Il va étudier de la halakha, de la gmara, des choses concrètes. Bon. Il arrive en haut au Gan Eden, on me dit, qu'est-ce que t'as fait? Voilà, j'étudie, ta, structuré, etc. Bon, Gan Eden. Non, c'est ça, un gars. Standard, quoi. Pas spécialement non chassid, standard. Ben non, rien à voir avec Naguette. Alakha, comme tout le monde. Bon, maintenant, tu as le roi David, il a dit, garde-moi d'un goy non chassid. Alors, comme ça il a dit. Bon, alors ensuite, tu as l'autre, un chassid qui se réveille le matin. Il dit, aujourd'hui j'ai envie de faire une bonne tuile. Bon, donc il va se préparer à cette tuile-là. Il va étudier un texte de chassidout ou de kabbalah, un texte qui parle de choses spirituelles. Bon, il va comprendre la moitié, c'est déjà pas mal, d'accord. On parle de choses spirituelles, il essaye de comprendre, mais il a beaucoup de mal, parce qu'on parle de choses abstraites qui ne correspondent pas à sa réalité.
Oui.
Mais il va essayer de faire ce qu'il veut, parce qu'il sait que c'est des choses spirituelles, il faut se préparer. Voilà. Il essaye, il comprend quelques notions. Après, à la fin, il est déjà tard, il n'a plus le temps, donc il faut déjà faire la fila. Il fait cette fila in extremis, il fait cette fila. Après, il va ouvrir une page de Gemara, il va étudier. Bon. Les deux, ensuite, le deuxième arrive au Gan Eden. Le reste, on lui dit, alors qu'est-ce que t'as appris? Répète-nous un truc que t'as appris. Si la vérité, je vous dis, c'était un cours, on a parlé un peu de Hatilou, des trucs comme ça, et tout, de l'énergie, mais bon, je ne saurais pas vous répéter. Je dis, écoute, dans ce cas-là, t'es pas sûr que t'es pas répété. Répète-toi, dans ce temps-là, t'as appris. Je dis, écoutez, Hatilou, il commence à lui balancer des mots comme ça. Répète-toi, un truc, t'as appris. Tu sais pas, gay, non. Mais, disait le rabbi précédent, il dit, pour rien au monde, j'échangerais ce gay, non, contre le Gan Eden de l'autre. Très très fort quand même.
Oui, mais d'accord, mais pourquoi?
Ça veut dire que y a Gainom et y a Gainom, y a Gan Eden et y a Gan Eden.
Gainom, JP,
place Vendôme.
Ça veut dire quoi? Bezrat Hashem demain sur Shavuot. On va recevoir la Torah, Aseret HaDibrot. C'est quoi l'Aseret HaDibrot? C'est pas les mots qui nous intéressent. C'est l'énergie qui se cache derrière ces mots-là. Et quand on réfléchit, c'est écrit dans la Kabbalah que derrière les mots d'Aseret HaDibrot se cache l'énergie de toute la Torah. Et que quand on se concentre Shavuot, on essaye de passer une bonne fête de Shavuot et d'étudier un maximum de Torah, ça nous donne de la force pour étudier la Torah toute l'année comme il faut.
Amen.
Mais ça, on le sent pas, ça. On croit Shavuot, c'est une fête,
c'est tout.
Quoi? Un peu précédent. Nous, on croit que c'est... Mais il n'a pas parlé, il n'a pas du tout appuyé sur le côté mitzvah, hein, rien à voir.
Non, mais c'est étonnant de sa part.
Très très fort comme
message.
Elle est très dure à
quoi?
L'énergie dont tu parles.
Qui a pas son temps à étudier la Gemara, etc. C'est
étonnant. Donc ces jours-là, ils vont nous permettre d'avoir une année bonne.
Ça veut dire qu'il...
Cette année est très très dure à puiser.
Ça veut dire qu'il faut toujours chercher à quitter le support. Moi, je sais toujours, quand j'étais à l'Eshiva, on étudiait la Gemara. toujours le Rav, il nous disait, ne vous limitez pas aux mots. C'est-à-dire qu'il y a les mots de la Gemara. Et qu'est-ce qu'ils font les gens en général? Pas la Gemara, tout ce que vous étudiez. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent, ils traduisent. Et donc, ils se limitent aux mots. Derrière un mot, il y a une énergie, il y a un message qui veut se faire passer.
Écoute ce qu'il vient de dire.
Non, je suis pas d'accord avec
ça. Derrière le mot, écoute bien. Derrière le mot, il y a une énergie. C'est l'énergie qu'il faut chercher. Il y a des gens qui ont besoin des mots pour trouver l'énergie, il n'y a pas de problème.
Je comprends ce que tu racontes.
Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas se limiter, il faut pas s'arrêter au mot.
Qu'est-ce que tu tires comme leçon?
Le mot, c'est un vecteur.
Arrête-toi sur le mot lui-même.
D'accord. Mais il faut toujours chercher ce qu'il y a derrière le mot. Tu peux avoir des gens.
Le permis d'avoir.
D'accord. Tu peux avoir des gens qui ont passé, messieurs. Tu peux avoir des gens qui ont passé toute leur vie à lire et traduire, mais qui n'ont jamais rien compris.
D'accord. C'est pas une raison.
D'accord. Nous, ce qu'on doit essayer de faire, c'est d'essayer. J'ai pas dit que les mots c'est important, parce que le mot c'est un vecteur. Ah, si c'est un vecteur, il faut passer par ce vecteur. Mais il faut toujours chercher à aller savoir ce qu'il y a derrière les mots. C'est ça quand on étudie la Torah. Faut jamais s'arrêter aux mots. Faut aller voir toujours ce qu'il y a derrière les mots. Et quand on avance, on voit que plus
Le mot, les mots, c'est plus le support. Le vecteur, c'est de l'énergie.
Non, ce qu'on a expliqué. Le mot est un vecteur.
Le mot est un vecteur.
Le mot est un vecteur d'énergie.
D'accord, donc si tu n'as pas le mot,
le mot est un support.
Vous avez besoin d'un peu d'énergie.
Non, mais le mot, c'est justement, c'est quoi la différence?
Le mot est support.
Non, c'est quoi la différence entre la manière d'expliquer en général, et qu'en général, les gens disent que le mot, c'est seulement un support, qui transmet quelque chose d'indépendant, alors que dans la Torah, on explique que le mot est le vecteur. C'est le vecteur qui retrace tout depuis le début. C'est-à-dire que quand tu t'approfondis dans les mots, t'es capable de voir, t'es capable de retracer jusqu'au début. Ah, c'est vrai, t'as dit brotte, ah non.
Avec ta traduction.
Allez, on s'arrête ici. Bon, Bezrat Hachem, on développera ces points beaucoup plus longuement dans les semaines qui suivent, parce qu'il faut développer beaucoup.